la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers lecteurs, chères lectrices. Merci d'être à l'écoute de 48FM pour cette dernière émission de l'année 2023. Une émission sous le signe de la féerie, des fêtes de Noël, de la magie des contes de notre enfance. Mais ce soir, c'est à la nouvelle génération que nous allons nous adresser. À toi, petite tête blonde qui souhaite avoir un jouet dégueulasse en plastique dont tu ne te serviras que deux fois et qui restera sur une étagère au mieux, par terre dans le salon au pire, jusqu'au moment où ta maman marchera dessus, puis poussera une belle gueulante et ce sera bien fait. Et ça n'aura rien à voir avec cette douce tonalité d'une voix mielleuse qui pourrait te dire « Bonjour à tous !» Ou plutôt « Il était une fois !» Tu as compris, à cette heure, tu as le choix de te faire engueuler ou que l'on te raconte une belle histoire au coin du feu. Oui, petit enfant, réfléchis s'il te plaît à quoi va te servir ton jouet en plastique. Si tu ne crées pas d'histoire pour jouer avec, oui, tu as encore le temps d'envoyer une nouvelle lettre au Père Noël et pour cela, je vais t'aider. Alors prenons un exemple d'une lettre lambda avec un prénom inconnu. « Cher petit papa Noël, c'est Rosalie. Je m'excuse de t'écrire à nouveau. J'ai dû manger trop de chocolat dans ce calendrier de l'Avent. Je n'étais plus moi dans cette première lettre. Ça m'a rappelé maman quand elle rentre de la batucada ou de soirée. Tout bien réfléchi, un chien ne peut pas conduire un camion de pompier et avoir comme ami un chien qui conduit un camion de police et une chienne croisée coqueur et caniche dans un hélicoptère. Je préfère donc changer de cadeau et commander un conte de Noël entendu dans la formidable émission Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie la livrerait dont la libraire ressemble à un petit lutin rigolo. Merci Père Noël, tu m'excuseras auprès de la Mère Noël, mais je dois aller préparer le vin chaud qui aide maman à s'endormir le soir. Oui, nous avons décidé d'évoquer pour cette dernière émission des contes pour enfants, pour adultes, pour tout âge et de tout pays. Et nous avons avec nous notre petit lutin rigolo. Salut Valérie.
Hello.
Et en fait, je me suis trompé, tu es plutôt la Mère Noël avec ta belle robe rouge et vu que tu t'es entouré de lutins pour t'aider pendant ces fêtes de Noël. Alors tu nous présentes tes petits lutins rigolos que tu nous as amenés ce soir.
Oh, c'est des super, pas des petits lutins, c'est des super lutins. Bah, ils peuvent peut-être se présenter tout seuls, hein, tu sais, c'est des lutins qui sont dotés d'une voix.
Je sais pas moi, je sais pas comment ça se passe à la préparation des cadeaux de Noël, Mère Noël.
Ah bah écoute, ils sont là, ils conseillent les gens... Ils font des paquets cadeaux, des sourires, ils sont heureux. J'ai pas l'impression qu'ils soient trop martyrisés.
Ouais, ils vont nous présenter des livres en plus.
Peut-être. Parce qu'en fait, on n'a pas trop eu le temps de préparer. Parce que justement, le Père Noël nous a donné des tas de livres à empaqueter. Et on a manqué de temps. Donc, ouais. Voilà. Et sachant que nous avons Maxime qui est là avec nous ce soir.
Salut Maxime.
Bonjour.
Voilà. Et Maxime, sa spécialité, c'est quand même la poésie.
D'accord.
Voilà, donc il a passé la journée à ranger le rayon BD. Ne cherchez pas le lien, il n'y en a pas.
Okay.
Et du coup, il n'a pas pu faire les contes. Et Zélie, sa spécialité, c'est les lettres classiques, le grec ancien et le latin.
D'accord, très bien.
Voilà, et elle a passé
Bonsoir.
Et elle a passé sa journée à ranger le rayon jeunesse. Ne cherchez pas le lien, il n'y en a pas. Mais c'est la magie de Noël.
Eh bien oui, c'est ça la magie de Noël. Salut Pauline.
Coucou tout le monde.
Rosalie va bien?
Tout le monde va bien.
D'accord, elle est dans la cuisine à préparer le vin chaud?
Oh, sûrement.
Eh bien oui.
S'occupe bien de sa maman.
C'est ça, ouais. Ça, c'est des bons enfants. Salut Marlène, tu es là aussi?
Salut.
Allez, on salue aussi Clarisse qui s'est fait mal au bras en glissant de son traîneau, mais qui va mieux, et Claire et Clarisse que l'on n'oublie pas. J'avoue que c'est l'émission que j'ai le moins préparée aussi de l'année.
Hein,
c'est la fin de l'année, ouais, je sais.
T'avais pas de stagiaire?
Non, j'en avais un, mais je l'ai envoyé dans les rues, dans le froid, faire des choses. Allez, qui veut commencer? Quelqu'un est bénévole?
En fait, on est tous bénévoles.
Vous êtes tous bénévoles. Alors, donc, je vais dire. Pauline.
Ah bah tiens.
Allez, comme par hasard. Comme je sais que cet après-midi, tu as eu du temps.
Oui, tout à fait. Hein? Oui, j'étais pleine de temps et du coup, j'ai lu Le vilain petit machin.
Ah.
Le vilain petit machin, un conte tout mignon. Un régal. Je l'ai lu. Alors, à mes deux petites filles qui ont 2 ans et 4 ans, bah, c'est le public parfait pour Le Vilain Petit Machin. Bon, vous l'avez sûrement compris, c'est Le Vilain Petit Canard. Avec sa mère tendre, ses frères méchants, le pauvre, il est moche, le pauvre, il comprend rien à ce qui lui arrive, tout le monde le rejette. Bref, on l'aime pas trop. Mais c'est une réécriture par Marie-Sabine Roger, alors que je connaissais comme auteur jeunesse-ado. Peut-être qu'elle fait plein de livres pour enfants, mais voilà, je le découvre. Et Marjolaine Leroy ou Leray ? Leroy, on va dire. Bref. Voilà, donc c'est une réécriture assez poétique. On est dans une forme assez sympa. Je vais vous lire la première page, si vous voulez. Notre regard s'arrête aux surfaces des choses. Il en faut bien peu pour les teinter de rose, ou de noir, ou de vert, ou de gris, ou de bleu. Foin d'énumération longuette, je ne vais pas ici décliner la palette. Bref, se fier au regard des autres peut nous rendre très malheureux. Donc voilà, l'originalité de cet album, c'est déjà l'écriture. Alors, au-delà de cette petite écriture un peu poétique, il y a plein de petits jeux de mots sympas, des bruitages à faire. Donc c'est vraiment une histoire à lire à voix haute. Et on s'amuse bien, même si on n'est pas super doué pour les lectures à voix haute. Le bouquin nous y aide bien. Il y a des bruitages, il y a des... Voilà, c'est très bien fait, c'est très sympa. C'est un petit livre tout mignon. Et y a une jolie morale à la fin. Alors, elle est carrément écrite. Hein, aimons-nous les uns les autres. Soyez fiers de vos différences. Mettez-les en avant. N'ayez pas peur. Montrez-vous. Voilà. Bon, là, la morale, elle n'est pas du tout sous-entendue. C'est un bloc à la fin. Moralité. Voilà. Et en fait, je me dis que pour des tout-petits, écrire clairement la morale, c'est pas bête, finalement. Et j'aurais même envie de leur relire régulièrement cette jolie morale, parce que ça fait du bien de l'entendre. Et les morales sous-entendues, c'est bien, mais clairement dites, c'est peut-être encore mieux pour des tout-petits. Donc voilà, une lecture sympa. Les illustrations, c'est un peu naïf, c'est crayonné, noir, c'est... Quelques petites couleurs, c'est joli, c'est mignonnet. Voilà. Non, une très bonne lecture et une chouette réécriture du Vilain Petit Canard que je conseille. Vous pouvez y aller des tout petits.
Voilà, c'est quel âge ? C'est tout petit.
Ouais,
jusqu'à quel âge alors ?
Jusqu'à 5-6 ans, peut-être. Ans. Ça peut les faire rigoler si on joue vraiment le jeu de la lecture. Voilà, ça va les amuser dans les sons, dans l'ambiance. Ça va les faire rire. Ça va faire rire les enfants. Mmh. C'est un joli moment.
Marlène, tu peux intervenir à tout moment, vu que tu as lu tous les livres que l'on a présentés, vu que tu as fait la sélection.
Ça fait quand même 31 jours, 8 heures et 15 minutes hein, qu'elle n'y lit que des contes tout le temps, elle nous a dit.
Oui, c'est ça.
Bah après, ça se lit super vite, un conte, surtout pour la jeunesse.
C'est vrai.
30 pages, 40 pages max.
Alors, quand tu le lis à des enfants, tu prends un peu plus ton temps. C'est quoi ça ? Pourquoi c'est là ? Et c'est quoi ce bruit ? Et tu peux refaire et on peut relire là. Ça, voilà. Mais du coup, c'est ça qui est sympa parce que, oui, tu refais le bruit à chaque page, même s'il n'a plus de sens. C'est amusant. C'est vraiment une lecture amusante et qui fait rire.
C'est chez le Seuil Jeunesse, il me semble, c'est ça ?
Tout à fait, Seuil Jeunesse, ouais.
Allez, je vais enchaîner comme ça, parce que j'ai aussi un livre du Seuil Jeunesse. Je vais vous laisser, je vais le faire passer, un très très joli livre aussi, avec des très belles images, c'est doux. Ça s'appelle Perlin, l'enfant qui faisait tomber la pluie. C'est Siegfried de Turckheim qui a écrit ce livre, c'est son premier livre d'ailleurs. C'est un Normand, il vit en Normandie, c'est son premier ouvrage. Alors c'est l'histoire d'une naissance miraculeuse de Perlin. Perlin qui est un petit garçon capable de gouverner la pluie, de faire tomber la pluie, dès qu'il naît hein, finalement, dès le départ. Et son père se dit, on va se servir de ce don, on va le travailler pour que tu puisses aider les gens. Et donc ce don est mis à profit, il fait pleuvoir partout où il y a des sécheresses, des famines. Tout ça est oublié, ce sont des mots du passé. Il est loué dans le monde entier pour ses exploits, le garçon grandit, bercé par ses déclarations d'exception. Mais au final, Au bout d'un moment, l'extraordinaire devient ordinaire. À force de se répéter, et les louanges se tarissent, l'exploit est devenu banalité, les admirateurs s'amenuisent. Et donc Perlin, il est pétrifié à l'idée de ne plus être aimé, lui qui a été soutenu toute sa jeunesse, toute son adolescence. Quand ça arrive, ouais, c'est fin d'adolescence, je pense. Il a une idée folle pour se faire aimer de nouveau, c'est inonder le Sahara. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais tout vous raconter.
Ah mais non, on veut savoir comment il a fait.
Mais il fait venir la pluie, donc il a décidé d'inonder le Sahara, il inonde le Sahara.
Et il y arrive ?
Oui, il y arrive.
Et il pousse des trucs.
Eh bien ça, après, il faut lire le livre.
Les gens l'idolâtrent ou pas ?
Je vous dis pas.
Il est aimé à nous ?
Je vous dis pas. Alors c'est superbement illustré, c'est très beau, très doux. Je sais pas si c'est du pastel, je sais pas ce que c'est. Il y a un gros travail sur les lumières. Alors c'est pas du Caravage hein, bien sûr, mais c'est très bien, c'est très beau sur les attitudes du personnage aussi, et la morale de ce conte est, vous l'avez peut-être compris, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
C'est beau ce que tu dis.
Oui, ben, c'est la morale, c'est pas moi, j'ai pas inventé, c'est... Oui, non, c'est pas de moi. Et donc vraiment je le conseille à tout le monde parce que ça peut se lire à tout âge. Voilà, on est dans la BD jeunesse, mais moi qui l'ai lu après les 8 romans adultes que je vais vous présenter tout à l'heure, que m'a donné Marlène, moi qui ai bossé, 8 romans.
Ça, c'est une blague.
Non, ce n'est pas une blague.
T'as vu ? Je pense à lui.
Je l'ai présenté. Voilà, j'ai passé un super moment. Je l'ai donné à mon enfant de CM2 qui a beaucoup aimé aussi, et je le conseille vraiment à tout le monde. Voilà donc pour ce livre. Marlène, tu veux en parler aussi ou pas de Perlin ? Ouais, de la pluie ou du beau temps. Ou
le sinon, faiseur de nuages ?
Le faiseur de nuages. Ah ben tiens, c'est un... Tu vois, j'ai bien fait de ne pas la préparer, parce que j'aurais pas trouvé une transition aussi bonne.
Faiseur de nuages. Alors, le faiseur de nuages... Du coup, c'est un conte africain. Alors, deux secondes, je retrouve toutes mes notes.
Voilà, parce qu'on va partir. Alors, Marlène, pendant que tu cherches, c'est un conte africain parce que toi, tu as plein de contes du monde entier. Hein. Oui. Tu parles d'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, de plein de continents différents.
Voilà, celui-là, il est sur l'Afrique. Et du coup, on va se permettre de faire une petite dédicace à Rita.
Ben oui. Hein,
voilà. Donc, conte africain. Alors, il est très court, pareil. Donc, les illustrations. Très lumineuse, très colorée, mais à l'image de l'Afrique, j'ai envie de dire.
Oui.
C'est totalement ça. Donc là, le faiseur de nuages, on peut se dire, du coup, c'est pareil, on continue avec un peu l'histoire de pluie, on continue avec... donc, c'est un peu ça, mais pas tout à fait, parce que du coup, c'est pas la pluie, c'est plutôt, la transmission, le respect de la nature, la protection et le rôle qu'ont les hommes vis-à-vis de la nature. Et en fait, du coup, c'est... alors, je ne sais plus comment il s'appelle.
Alors, je vais te
Sawadogo,
dire... Yakuba.
Ça veut dire... Oui, mais Sawadogo, ça veut dire littéralement « ceux qui font les nuages » en langue Mossi. Donc, du coup, c'est... c'est tiré de ça. Et en fait, c'est... juste si je lis le...
Zélie Akiyase, hein, Zélie qui est bilingue à Akiyase.
Ah ouais.
C'est bien ça.
Tu connais le Mossi ?
Lettres modernes. Tu nous as pas dit spécialiste de lettres modernes africaines.
C'est pareil. En fait,
c'est pareil. Oui, c'est ça.
C'est pareil.
Donc du coup là, on découvre un peu tout ce qui est tradition. Donc on est sur le Burkina Faso. Hein.
D'accord.
Les Mossi, c'est surtout au Burkina Faso. Bien que au Burkina Faso, il y ait 66 ethnies. Et donc dans ce livre, ça parle de certaines des traditions des 66 ethnies. Heureusement, on prend pas tout, mais voilà. Et donc en fait, il raconte la tradition un petit peu africaine. Ça commence comme ça, où il y a toujours un ancien qui parle aux plus jeunes et qui raconte des traditions et qui fait passer la sagesse africaine. Et donc, du coup, là, le début, c'est ça, en fait. Au pied du grand arbre, on s'assoit dans le village et on écoute ce qui se raconte et tout ça. Et donc là, en fait, il raconte le fait que, du coup, les arbres se sont mis à marcher et se sont carapatés, voilà, parce que, du coup, les hommes n'ont pas pris soin d'eux et le village s'est transformé en désert. Voilà. Et en fait, il y a un homme qui a pris toute sa patience, qui a observé la nature, qui a observé comment ça fonctionnait avec l'eau, avec les arbres, etc. Et qui a replanté un par un les arbres, qui en a pris soin. Et du coup, je vais dire la fin, mais c'est pas grave. et du coup, il refait venir la vie dans son village. Voilà. parce que lui, il prend soin de la nature, il prend soin des arbres, parce qu'en fait, là, ce sont les arbres qui sont du coup les faiseurs de nuages, qui font revenir après les nuages, et qui font que du coup, le cycle de la vie peut de nouveau être présent, enfin, mieux, et mieux respecté. Voilà pour celui-là. Alors, voilà, du coup, c'est à partir de 4 ans. Alors, je ne l'ai pas lu, moi, à mes enfants, celui-là.
D'accord.
Je ne sais pas. Voilà.
C'est un conte traditionnel revisité, j'imagine.
Non, pas revisité, c'est un conte traditionnel.
C'est le conte traditionnel tel quel. D'accord.
Non, c'est vraiment. Oui, parce qu'ils reprennent même des. Je l'ai dit là, c'est l'histoire vraie, en fait, de certaines ethnies du Burkina Faso.
Okay.
Mais pas tout, bien sûr. Mais voilà. Donc, il y a certaines petites anecdotes qui sont glissées dedans. Voilà. Voilà, pour celui-là, déjà.
Très bien, c'est super. On est à quelle maison d'édition ?
Chez Grund.
D'accord, super.
Qui, à la base, était quand même la maison d'édition des contes par excellence.
Voilà, vous aviez du Seuil beaucoup tout à l'heure, j'en ai pas un. Oui, mais j'ai beaucoup de choses.
J'ai que Seuil, moi.
Mais oui, c'est marrant, hein.
Ouais, ouais.
D'accord.
Moi, j'ai tout sauf Seuil.
Maxime, du Thierry Magnier devant eux, du S et l'Acte Sud Junior, mais... Ouais.
CDC.
Voilà, c'est ça.
Ok, super. Ça. Allez, Zélie, Maxime, qui veut dire Maxime, tu as le micro devant toi, tu veux présenter un ouvrage ? Tu n'es pas obligé, hein.
Je suis pas prêt du tout pour des...
Tu n'es pas prêt du tout, d'accord. Ok. Zélie, tu veux présenter un ouvrage ?
Je pourrais parler de ça.
Ouais, allez, tiens, on va te prêter un micro. Ouais.
Donc, bonsoir. Moi, je vais vous parler non pas d'un livre, mais d'un jeu de société. Donc ce sont Contes à la carte aux éditions Thierry Magnier. En fait, c'est un jeu tout simple, donc vous pouvez jouer de 2 à 8 joueurs. Vous tirez des cartes où il y a des illustrations, donc de sorcières, de chats, de loups, et vous créez votre histoire. Donc voilà, c'est tout simple, c'est super chouette pour jouer avec donc, des gens de tous âges, et voilà, c'est très beau.
C'est notre Claire Lise.
J'étais en train de penser la même.
Hein. Alors normalement, on doit y jouer quand même. On doit essayer. Hein. Ouais. On peut pas essayer.
On peut voir les cartes. On a une ludothécaire qui vient et qui nous présente un jeu en lien avec le thème de l'émission. Et là, donc, comme c'est compte à la carte, tu as très bien choisi le jeu.
D'accord. Je me rappelle de belles parties autour de ces micros où personne ne comprenait rien parce qu'on essayait d'expliquer le jeu en jouant. Mais bon, même nous, je crois qu'on ne comprenait pas.
Là, c'est plus simple. Tu t'aides d'images pour avoir un thème, une action. Et
d'accord.
Tu brodes. Enfin, toi, tu vas tous nous gagner à ce
jeu. Ouais,
Par contre, ce que tu n'as pas dit,
c'est génial.
Ce que j'allais dire, ce que tu n'as pas dit, c'est à partir de quel âge, du coup, peut-être. Non, mais si tu as une idée, parce que...
Dès tout petit, hein, parce que c'est dès qu'on est capable de créer des histoires, donc vraiment, j'allais dire, même dès 3 ans, en soi, dès qu'on est guidé avec les parents, les tontons, tata, la famille.
Et puis, je pense que ça peut créer quelque chose de fantastique, avec l'imagination des enfants, celle des adultes, des papy-mamies mélangés, ça peut être quelque chose de très drôle.
Ça, c'est bien. C'est super. Ouais. Merci beaucoup, Zélie. Je vois que tu as un autre livre devant toi. On viendra après. Hein
Je crois que je leur ai balancé des livres devant eux pour la photo.
Ah, c'était pour la photo.
Non, d'accord. C'est pour ça. J'avais dit que tu étais bienveillant et que tu ne les mettrais pas en porte-à-faux.
Oui, mais en fait...
Mais c'était faux.
C'était faux. Je ne suis pas du tout bienveillant, tu le sais bien.
Si, mais d'habitude. Ouais.
Au pire des cas, si je te questionne sur un livre, tu sais pas de quoi parler, tu parles de Gardien de ma vie de Joël Batz, édition illustrée 1984. 1984.
Donc alors, édition 1984, c'était chez J'ai lu. Et ça racontait, donc c'est une autobiographie dont Joël Batz, grand écrivain et footballeur à ses heures perdues, gravir un but. On n'avait jamais trop.
Était aussi loin.
Oui, puis on n'était jamais trop rentré dans sa biographie, vraiment.
Non.
Je pense qu'on en fera une spéciale, parce que là, on parle de contes.
Ouais, on parle
et
de
ceux qui nous rejoignent doivent se dire « Non, attends, cette émission est totalement surréaliste. »
C'est ça.
Et je te fais la transition, du coup.
Mais évidemment.
En parlant de surréalisme, on parle beaucoup des contes traditionnels chinois, japonais, les contes au coin du baobab, contes au coin du feu, merlois et compagnie. Mais par contre, est-ce que vous avez déjà lu des contes d'autres mondes et d'autres temps ?
Non, quelle surprise, des contes de science-fiction.
Des contes de science-fiction par le grand, l'extraordinaire, le fabuleux, l'innommable, je ne sais pas le dire, celui qu'on ne peut pas narrer tellement il est incroyable, Pierre Bordage.
Ah, tiens.
Mm-mm.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui.
C'est ouais. Exactement, mais alors, ouais, depuis son dernier livre, moi, personne ne me parle de lui. C'est incroyable.
Moi, je croyais qu'il était mort.
C'est-à-dire, à peu près, il y a une heure de ça, encore, on m'en a parlé.
Il n'est pas mort,
Non, il est
Bordage.
Incroyablement
Ah, non, il n'est pas mort.
Ah, non, d'accord.
Je rêverais de le voir apparaître dans une capsule spatio-temporelle.
Ouais.
Et donc, Pierre Bordage, incroyable, il a écrit donc, un livre de contes qui est édité donc, au Seuil. C'est toute une collection de livres de contes. Il y a tout un tas de sujets, il y a tout un tas de lieux, enfin je sais pas, il doit y en avoir une cinquantaine différentes, et il y a donc des contes des sages d'autres mondes et d'autres temps. Alors sur le principe de construction, on est comme des contes, c'est-à-dire classiques, hein, avec une histoire, une chute, une morale, mais ça se passe toujours dans des mondes incroyables, des mondes futuristes, et il y a plein d'images. Alors pour les amateurs de SF ou de dystopie, alors on est servi parce qu'on a la partie conte, on a même quelques images un peu steampunk, enfin c'est vraiment chouette. Et il y a même, pour ceux qui aiment la poésie, je regarde Maxime, il y a même un conte qui est écrit en vers façon poésie, made in Bordage. Ça, c'est juste fou. Une des histoires, par exemple, de conte, pour vous parler de la construction, elle se passe sur une planète où un homme vit seul et ça fait plus de 1000 ans qu'il a vu personne, jusqu'au jour où quelqu'un vient frapper à sa porte, un autre être humain. Et il est étonné parce qu'il a vécu... En fait, tout le monde a disparu autour de lui parce qu'il y a eu une pandémie. Alors, attendez, je vais vérifier, mais ce livre a quand même
2020.
Été avant. Non, c'est beaucoup plus.
1979.
Ah, ça a été édité en octobre 2020, c'est incroyable.
Tiens,
et du coup, voilà, donc cet homme vit seul, ça fait 1000 ans qu'il vit seul, et puis un jour, quelqu'un toque à sa porte, et là, boum. Oui, ça t'a surpris, toi, si quelqu'un toque à sa porte, popo. Ouais. La bière mousse, non
ouais. Non, elle veut faire des, elle fait des du bruitage. Elle fait du bruitage. T'as pas entendu la fusée qui décollait?
C'était ça. Il atterrissait parce qu'il vient de toquer à sa porte.
Ah oui, il atterrissait.
Et pas donc, l'homme lui explique que ça fait 70 ans qu'il est en train de se promener de planète en planète sur les 70 planètes qui existent, qui étaient encore habitées par l'homme autrefois, et qu'il est le premier homme qu'il rencontre, et que maintenant, ben, c'est la fin. Sa vie, elle est terminée, puisque cet homme qui vient de se présenter à lui, ben, il veut être le dernier homme dans l'univers, donc il va le tuer.
Okay. C'est pas mal le pitch, là. Ça...
Ouais. Et l'autre personne ben, dit, Poutine, ben, écoute, en même temps, ça fait 1000 ans que je vis, 1000 ans que je suis tout seul, mais il lui dit, mais tu vas être le dernier, mais et après, quoi. Et donc, il le tue. Et le gars donc s'installe dans sa maison et vit comme ça quelques années. Et quelques années plus tard, il y a une femme qui arrive et qui se présente à lui en lui disant « Voilà, ça fait des 36 ans que je suis à la recherche de toute trace de personne vivante. Je viens de vous trouver, je suis la dernière personne dans l'univers vivante, donc je vais vous tuer. Et je serai comme ça, je resterai dans la postérité comme le dernier être humain dans l'univers. »
Ok, génial.
J'adore les contes comme ça. Et arriver à les mettre, je trouve, façon science-fiction, c'est un petit bijou, en fait.
Oui, parce que là, c'est une thématique, je pense qu'on a nulle part ailleurs, la science-fiction. Ah, dans
c'est la première fois que je le voyais.
Mais
moi,
pourquoi, Pauline? Parce que nous n'avons que les contes enfants.
Pour la jeunesse.
Parce que nous devions récupérer les contes adultes auprès de Valérie qui ne sont jamais arrivés jusqu'à nous.
Ils sont là, vous aviez qu'à venir.
Oui. Non, moi j'en ai lu 6. Mais c'est génial ça, ouais. Super, super.
Voilà, c'était parce que on avait fait pas mal d'émissions sur les contes. Il y a ça permettait de sortir un peu des.
Après, il y a souvent de la morale aussi hein, dans la dystopie, dans la science-fiction, toujours. Ouais.
Non, mais là, c'est un petit côté Blade Runner, c'est.
Ok, en plus c'est très beau comme, comme livre à offrir, c'est un petit format, voilà, ça faut le préciser pour nos auditeurs qui ne le voient pas, c'est un semi A4.
C'est comme un micelle allongé.
C'est comme un micelle allongé. Voilà.
Pour ceux qui ça parle, alors à la Pauline elle dit mais c'est quoi un micelle, beurre de micelle
si, c'est ce que
c'est. Non, regarde la bretonne qui est...
Voilà, comme ça, si vous ne l'avez pas fini et que vous devez aller à la messe de minuit, vous pouvez le prendre et faire semblant de chanter.
Alors, je vous préconiserais, si vous devez prendre à l'époque, moi, le micelle était plutôt de couleur bordeaux. Mmh. Si vous devez prendre à la place d'un micelle, prenez celui des contes des sages qui s'enivrent.
Ah, voilà. C'est bien
déjà,
ça.
Déjà, ça peut vous donner le goût pour le vin de messe et en plus, il est plus de couleur micelle.
C'est voilà. Jean-Jacques. C'est pas Jean-Jacques Fidida,
c'est Jean-Jacques Fidida.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais je crois que tu en avais déjà parlé sur les contes du jardin il y a quelques années.
Ça me dit quelque chose.
Contes du jardin qui étaient verts avec des aubergines dessinées en bas.
Il y a des illustrations dedans, non?
Oui, il y en a quelques-unes.
Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mais vous êtes dissipés pour cette dernière émission.
C'est qu'elles n'avaient pas écouté l'émission où on parlait des contes du jardin, où tu avais parlé du livre de contes du jardin.
Moi, je vais parler poésie avec Maxime, j'en ai marre de vous. Parce que si on peut parler poésie, hein, c'est dans les contes, c'est très bien. Ton livre préféré de poésie, ton livre de chevet, ça serait quoi, Maxime? Tu as le droit de dire Rilke.
Je vais fuir. Non, non, oui, ce serait Feuilles d'herbe, sûrement, de Walt Whitman.
Ah, bien. Ouais. Je sais pas. Valérie, ça serait quoi, toi?
Mon livre...
De chevet, de poésie.
C'est le Bureau de tabac, de Pessoa. Tabacaria.
Tabacaria.
Voilà, l'illusion franco-lusitanienne.
D'accord, très bien, pourquoi pas.
Ouais.
C'est bien. Merci pour cette petite aparté poésie. On y reviendra un peu dessus, peut-être. Marlène, je reviens vers toi. Eh oui.
Et je vais te concentrer un peu, tu nous dissipes, c'est insupportable.
Ah oui, c'est insupportable. Tiens, on va aller. Il y a deux livres, j'imagine c'est la même maison d'édition. Si l'Afrique m'était comptée et si l'Océanie m'était comptée, je les vois qui dépassent de ta. Ou non, tu as l'air dubitative.
Si, si, non, non, c'est que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur cela, mais si tu veux. Alors, attends, tu as dit quoi? Tu as dit la collection « Si un continent m'était compté
hors ». Voilà. Bah... Ah, c'est ça la collection, voilà.
En même temps, elle ne doit pas être trop longue, cette collection.
L'Afrique, bah oui.
Et puis, alors, risque,
et puis du coup, je sais pas pourquoi, je viens de tilter. C'est bien, l'âge que j'ai, il était enfin temps. En lisant le titre, j'ai fait « Donc, si l'Afrique m'était comptée et eux mm-hmm. »,« Si l'Océanie m'était comptée et eux
ouais. »,
tous les continents, en fait, c'est eux.
Ok. D'accord.
D'accord.
Merci.
Ouais.
Alors,
voilà, j'ai fait ce qui ne marche pas pour
quel continent?
Vas-y, dis.
Ça ne marche pas pour quel continent, Valérie?
Tu me regardes là?
Oui, oui.
Ben. Aucun, si.
L'Arctique? L'Antarctique? Hein?
Je ne sais pas.
Non, aucun.
Non, mais non.
Elle a dit tout.
Je cherchais une question piège.
C'est juste que je viens de tilter en fait, que les continents sont féminins.
Ah, d'accord.
Ça, c'était la minute qui restera gravée, je pense, pendant au moins jusqu'à 8h30 ce soir.
Non, mais je comble.
Non, mais t'as le droit de dire si ça t'a pas énormément plu.
Non.
C'est pas grave.
C'est du coup. C'est la collection, c'est la collection Maison d'édition Rue des Enfants. Leur objectif, c'est de montrer un peu les diversités du monde et les diversités des cultures. Voilà. Alors après, il y a très peu de contes dedans. Il y en a plusieurs. Je me suis attardée sur juste une qui m'a plu, qui m'a fait un petit peu rire. C'est du coup sur toute l'eau de la terre qui est engloutie par une grenouille. Elle boit, elle boit, elle boit. Alors elle commence par une petite flaque d'eau. Après, elle va à la rivière, elle va au fleuve, elle va à l'océan. Elle va à tout, à tout, à tout. Et du coup, bah, tous les animaux sont en train de dépérir et voilà, et veulent la faire rire parce que l'objectif, c'est que si elle ricole, peut-être que l'eau reviendra. Et du coup, quel animal va arriver à faire rire la grenouille?
La hyène?
Non.
C'est un animal d'Afrique?
Bah, c'est non. Le singe? Ah non.
Non, c'est un animal qui est sur tous les continents.
L'homme?
Non.
Le zébu, parce qu'il est au bord de l'eau, il dit tu viens boire, et il dit non, c'est quand zébu soif. Voilà.
Alors, c'est un animal. Enfin, ouais.
Le tardigrade.
Non.
Mais il a pour habitude de nous faire rire.
Absolument
pas. Le babouin
pas.
À fesses rouges.
Absolument pas. Moi,
mais c'est la vache, c'est le lion.
Non, c'est le ver de terre.
Ah, c'est le ver de terre.
C'est le ver de terre qui l'a fait rire. Hein. Et du coup, elle rigole, l'eau revient.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'a été créée la grenouille, et c'est pour ça qu'elle a gardé des yeux globuleux.
D'accord.
Voilà. D'accord. Moi, je connaissais l'histoire de Rainette et pourquoi elle nageait toujours les fesses dans l'eau. Mais
c'est... Non, je pensais à la grenouille à grande bouche ou quelque chose comme ça aussi. Hein.
Voilà. J'ai sorti ça là, je me suis dit, je vais vous la raconter ça là.
C'est sûr.
Enfin, moins bien, hein, forcément.
Non, mais on te sent pas hyper emballé. Et non. Même cette maison d'édition, tu vois, moi, elle m'était pas très familière, pour ne pas dire inconnue.
Mais oui, mais après, je me suis dit, justement, je veux découvrir et tout ça. Mais bon, après, enfin voilà, après,
jolies,
c'est mignon.
Ceci,
oui. Ouais. Mais même les petits contes et tout, c'est sympa. Mais de toute la sélection que j'ai, ben, c'est pas mes coups de cœur.
Mais voilà. T'inquiète, tu vas lire le reste.
Non, mais t'en as lu 872 et tu nous as amené deux que t'aimes pas.
Mais non,
mais il fallait que j'en parle aussi.
Oui, oui.
Et puis je me suis dit, ah non, mais il faut trop que je leur dise que quand même, je viens de percuter que les continents, c'était féminin, quoi, en fait.
On n'est pas là pour édulcorer les choses.
C'est l'info du soir. Voilà. Je peux aller me coucher, c'est bon.
Voilà, monsieur. Ça fait une demi-heure, c'est 7h30, c'est le moment de la pause musicale. Donc j'ai pris une chanson bien courte qui dure que 2 minutes 20. Mais pour rester dans le thème, on va écouter Otis Redding qui va nous chanter Merry Christmas, baby. Oh, et ouais. Baby. C'est parti. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Bought me a diamond ring for Christmas. I feel like I'm in paradise. I feel mighty fine, y'all. I got music on my radio. Feel mighty fine, girl. I got music on my radio. Oh, oh, oh. I feel like I'm you standing beneath that mistletoe. Santa came down the chimney, half past three, y'all. Left all in my good old present for my baby and for me. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? Allez, on est reparti dans cette émission. Et on parlait encore conte, c'est beau ça.
On se battait pour savoir qui allait reparler.
Qui allait parler. Du coup, j'ai noté un peu partout. Je ne sais plus où j'en suis. Alors, tiens Maxime, je vais te donner la parole parce que tu veux nous parler d'un livre, ça y est, qui est prêt. Arrête de rire Marlène.
T'es insupportable ce soir.
Fais comme nous, bois de l'eau et arrête un peu de boire de la bière.
Moi, je croyais qu'elle ne buvait pas.
Ben ouais, il n'y a que elle en fait. Hein. Maxime, donc Lost Girl, qui veut dire la fille perdue.
Les filles perdues.
Les filles perdues, c'est au pluriel. Ok, girls. Allez, dis-nous aussi de quelle personne, de quel auteur.
Alors c'est de deux auteurs, c'est d'Alan Moore, le célèbre auteur de comics, et sa femme de l'époque, Melinda Gebbi, qui était illustratrice et dessinatrice. C'est, je crois, la seule œuvre qu'ils ont fait en commun, il me semble, à l'époque de leur mariage. Ils sont divorcés depuis. Okay. Et c'est une réécriture, en fait, de contes, puisque ça se passe en 1910, 1911. Non, même pas, non. Ça se passe à la veille de la Première Guerre mondiale, dans un hôtel autrichien, dans lequel, justement, trois femmes vont se rencontrer et passer du temps ensemble, jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'elles sont littéralement des filles perdues, puisque ce sont Alice du Pays des Merveilles, Dorothy du Pays du Magicien d'Oz, et Wendy de Peter Pan.
Et Zélie de la livrerie. Oh. Je suis perdue, qu'est-ce que je fais là?
C'est Valérie.
Toute la relecture d'Alan Moore et de Melinda Gebbi, c'est de prendre des versions adultes de ces personnages qui ont grandi, et de relire en fait ces trois contes à l'aune en fait d'une lecture érotique et un peu psychanalytique aussi. D'accord. Puisque du coup, au fur et à mesure de leur discussion et de leurs mutuelles introspections, on va justement plonger dans leur jeunesse et justement l'éveil de leurs sentiments sexuels. Et justement, c'est ça que le dessin de Melinda Gebbi vient restituer, c'est les premiers émois sexuels et surtout la lecture sexuelle qu'on peut faire d'un conte, en tout cas érotique. Et la bande dessinée est grandement érotique. En fait, elle va crescendo, elle va vraiment de plus en plus loin.
D'accord. C'est plutôt adulte alors.
Très adulte, oui, étant donné que Alan Moore et Melinda Gebbie viennent de la contre-culture. Donc,
Et du coup, c'est un huis clos, elles sont ensemble, elles se racontent leurs histoires et on fait des flashbacks.
C'est ça, oui, en fait, chaque chapitre est propice à raconter un flashback sur un des personnages. Et elles discutent ensemble, en même temps qu'il y a d'autres histoires qui se mêlent, l'histoire du mari de Wendy, l'histoire du maître d'hôtel, l'histoire justement du gérant de l'hôtel qui accueille toutes ces personnes justement et qui laisse traîner des prospectus érotiques justement pour que la promiscuité se fasse d'une certaine manière. Donc c'est tout ça qui se mêle, mais c'est surtout oui, ces trois personnages justement, leur histoire en tant que personnages de conte et comment justement la question sexuelle se mêle à cette histoire des contes et comment elles ont grandi en fait par rapport à ça.
Ok.
Justement, et comment elles grandissent aussi et comment elles vivent aussi un rapport complètement sororital à trois et érotique à trois aussi, puisqu'il y a... je l'ai dit, le roman va crescendo, on passe très vite de simples rapports hétérosexuels, vraiment, à des rapports à 3, à 4, et même en orgie complète à la fin de l'œuvre.
Ok.
Voilà. Je parle d'après souvenir, donc je ne fais pas du tout justice à l'œuvre.
C'est bien, je l'ai...
C'est bien, on aura d'autres versions de
compte. Je suis en train de commander. Oublions les 2-4 ans.
Petit Papa Noël, c'est Rosalie. Après avoir écouté l'émission, j'ai choisi de changer de cadeau.
Je vais donc commander aux éditions Delcourt ce magnifique ouvrage disponible. Non, ça a l'air génial.
Super, ouais.
Je suis vraiment en train de le commander.
On n'en avait pas parlé de cet auteur de comics déjà.
On en a parlé plusieurs fois, mais jamais de ce que dit Maxime, de cette collaboration.
C'est pas son ouvrage le plus connu.
Ouais.
Mais c'est oui, mais c'est ça a l'air demain, je suis en train de le commander.
C'est très bien.
C'est aussi, il faut souligner tout le dessin de Melinda Gebbie qui ressemble beaucoup à ce qu'a pu faire Sonia Delaunay quand elle a collaboré avec Sandrard.
D'accord. Je m'attendais pas du tout à ça comme comme on a entendu comics au début.
Oui, c'est vrai que
j'avais l'image comics, mais ça fait on dirait les quatre filles du Dr March ou quelque chose comme ça.
C'est beaucoup plus proche de ça, oui.
Mais sous LSD.
Oui. Ah bah oui, bien sûr, oui.
Ouais. Non, mais sur l'image, on le voit pas. Tu as raison.
Pardon, c'est mal. C'est ça qui fait le change.
Pareil. Ouais. Ok, merci Maxime. Si vous voulez, on peut continuer sur les contes adultes. Hein. C'est toi, Marlène, qui a un livre adulte, un conte d'une grande mère d'Asie, c'est ça. En plus, ça va plaire à Pauline parce que c'est réuni et raconté par Evelyne Ferré, qui est d'origine bretonne. Et ouais. Il nous faut toujours notre breton dans cette... alors, Evelyne Ferré, elle a passé son enfance à Saint-Malo et Saint-Servan, et après, elle est partie effectuer des études secondaires et supérieures à Nice. Puis, elle est allée travailler au Cambodge en tant que journaliste et enseignante, d'où elle a ramené son premier roman autobiographique. Et en fait, elle est restée dans l'Asie, tout ça. Donc, j'imagine que c'est de là qu'il est venu l'idée de réunir des contes d'une grand-mère d'Asie.
Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, elle explique du coup que... Elle tenait à rester le plus proche possible des contes tels que réellement ils sont racontés et du recueil qu'elle en a fait durant tous ses voyages. Ce que t'as pas dit, donc c'est un pavé quand même parce qu'il fait 1040 pages.
Oui.
Voilà, mais en fait, c'est le recueil de plusieurs ouvrages qu'elle a sortis parce qu'en fait, elle a sorti donc Contes d'une grand-mère d'Asie, certes, mais dedans, du coup, c'est les contes d'une grand-mère vietnamienne, chinoise, cambodgienne, tibétaine, indienne et japonaise. En fait, ils sont tous en version unique. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais...
Oui, t'as 5 tomes. C'est une intégrale des 5 tomes.
Voilà, c'est son recueil de tout. Voilà. Et elle est toute contente de dire que, voilà, alors le bémol, c'est que, du coup, il est tellement gros que, même pour le tenir, voilà, en poche, c'est pas... Voilà, mais du coup, c'est pour ça que je disais qu'il existe en version...
Séparée.
Voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Du coup, c'est vraiment les cultures asiatiques qui remontaient dans toutes les écritures, dans ce qu'elle a voulu faire. Donc, elle explique dans sa dédicace sa démarche. Elle a fait beaucoup de recherches. Elle met aussi des notes explicatives sur... certaines définitions de certains mots qu'elle a gardés et qu'elle n'a pas su ou pu traduire. Ben, voilà. Et en fait, je me suis dit que le mieux, c'était que je vous en lise un seul. Il y en a un qui m'a plu, qui est court, et du coup, j'ai dit, allez, je le lirai.
Ah oui, non, mais bon, c'est voilà. Super. très bonne idée.
Du coup, alors, on est dans la partie conte d'une grand-mère vietnamienne. Je ne sais pas parler le viet.
Mais tu l'as pas en français
si. Non, mais sinon, du coup, il y a un.
On demande à Zélie qu'elle le lise. Elle est trilingue vietnamien et d'être moderne.
Alors, comment tu prononces C-U-O accent circonflexe I?
Kuwait.
Kuwait.
Alors, je l'ai écouté sur. Sur Diction et en fait, on dit Kuwait.
Bon, hein. Oui, mais alors attends, moi je fais du vietnamien ancien.
D'accord.
Et tu le disais en singulier.
Et en plus, Zélie, elle approuve.
Oui, mais parce que c'est elle qui l'a appris. Elle pas...
Voilà, voilà. Non, mais rougis pas, hein, il le voit pas. Alors, oncle Kyoy ou l'arbre dans la lune. C'est pour ça que j'ai trouvé ça mignon, parce que vraiment, il est un peu poétique. Au sur la lune belle comme un bouclier d'argent, regardez, il y a un homme, il est au pied de l'arbre, il nous regarde et il sourit. Donc ça, c'est l'ombre portée sur la lune. Et d'où ça vient? En des temps très anciens, vivait un jeune homme du nom de Kuoy, Caillou. Il était si pauvre qu'il avait dû se louer comme gardien de buffle. Et encore ne recevait-il point de salaire, seulement de quoi se nourrir et une misérable paillote. Un jour, son maître lui fit atteler 5 chariots tirés par des buffles pour aller chercher en forêt le bois nécessaire à la construction d'une nouvelle maison. Une fois sur place, il ordonna à Kuoy de surveiller les bêtes et d'aller chercher de l'eau pour faire leur cuisine, pendant que lui-même et ses valets iraient abattre les arbres. Kuoy s'en revenait auprès de ses buffles avec ses seaux pleins d'eau lorsqu'il aperçut rôdant le nez au vent un jeune tigre. Réalisant tout le parti qu'il pourrait tirer d'une telle prise, il se rua sur lui et voilà l'animal estourbi d'un coup de poing et terrassé d'un coup de savate. Je vais raccourcir. Donc là, la maman arrive, est fâchée, parce que du coup, Kuoy a tué le petit tigron. Mais elle va chercher, donc il l'observe, il se met dans un arbre parce qu'il a très peur. Elle va chercher la feuille d'un arbre qu'elle mâchouille et elle ressuscite son tigron. Donc voyant cela, Kuoy récupère l'arbre très délicatement, le plante devant chez lui, et devient le soigneur du village qui ressuscite les gens. Cependant, on le prévient que si jamais quelqu'un vient à uriner sur l'arbre, l'arbre partira et il n'aura plus les petits pouvoirs qu'il a. Voilà. Kuoy a un chien et tombe amoureux d'une jeune fille qu'il épouse et que les villageois jaloux de l'arbre, tue. Parce que Kuoy ne veut pas. Voilà. Parce que Kuoy ne veut pas.
Il tue qui, l'arbre ou...
Il tue la femme.
La femme.
Ne veut pas leur donner le machouille. Enfin, l'arbre, voilà. Et pour que eux aussi, ils puissent avoir ressuscité qui ils veulent. Et donc, elle est tuée une première fois, elle est tuée une seconde fois. Et le chien donne ses tripes la deuxième fois parce que les habitants l'ont étripé, éparpillé partout, etc. Et donc elle fait, sauf que bah, du coup, cette gentille dame, vu qu'elle a les tripes d'un chien...
Elle a envie de faire pipi.
Toujours est-il qu'elle alla tout droit uriner contre l'arbre. Au même instant, des abîmes s'éleva une prodigieuse tornade et, en tourbillonnant, elle déracina l'arbre. Kuoy, qui rentra avec son chien, vit son arbre s'envoler et eut juste le temps de s'agripper à ses racines. C'était un homme qui avait, comme on dit, nerf et os. Mais il eut beau faire, rien ne pouvait stopper désormais l'extraordinaire ascension de l'arbre à travers l'espace. Emporté par cette force cyclonique, l'arbre avec Kuoy et son chien accrochés à ses racines continuait en tournoyant vertigineusement de monter éternellement, jusqu'à ce qu'il termine enfin sa course dans le féerique désert de la lune. Car ainsi, de toute éternité, on en avait décidé le ciel. Depuis cette époque, Kuoy et son arbre vivent dans la lune. C'est pourquoi, par les nuits très claires, quand la lune est ronde, on peut nettement voir l'ombre noire d'un arbre et en dessous tout aussi sombre celle d'un homme. C'est oncle Kuoy, assis au pied de son banyan en compagnie de son chien. Mais voilà.
Mais quelle est la morale?
Oui, je me questionne aussi, moi.
Non, alors du coup, c'est même pas, tu vois, une morale, c'est plus poésie, quoi. C'est plus poétique. Alors si, peut-être la morale, c'est sur tout ce qui est... Il y a la partie vanité, oui. Et jalousie, et voilà. On a peut-être aussi la partie « tu ne peux pas devenir plus grand que ton destin », en fait. C'est que même si tu ressuscites, au bout d'un moment, t'en payes le prix, quoi, en gros.
Mais notre faiseur de pluie de tout à l'heure...
Voilà. Ouais, mais c'est plus sur le respect de la nature. Tu vois, il a pas détruit. Lui, justement, il veut reconstruire ce qui est...
Non, non, je pensais au petit garçon qui fait pouvoir dans le Sahara. Mmh.
Et oui, mais... Ouais. Mmh. Alors, oui, mais il n'a pas pris des choses. Ça lui est tombé dessus.
Mmh. Oui, mmh. Alors il faut savoir qu'elle a écrit des contes du Vietnam, du Cambodge, du Tibet, de l'Inde, de la Chine et du Japon.
Il faut savoir qu'elle l'a dit juste quand elle a parlé du gros pavé, voilà, en disant qu'il existait sous sec. Petit Quentin.
Mais c'est vrai, parce que cette émission par un volo.
J'étais en train de faire du morse avec Pauline pour savoir si elle voulait boire une bière. mais j'ai noté qu'elle avait dit que c'était un pavé, et ça tombe bien parce que moi j'ai eu pas de pavé, mais je n'ai pas eu un livre, mais 8 livres. Ouais. Alors je vais passer outre parce que c'est très inégal entre les livres. Il y a des histoires, il y a des genres d'haïkus, il y a de la poésie, il y a des illustrations, voilà, il y a un peu de tout. Je voulais juste vous demander, c'est les éditions pneumatiques. Donc c'est des petits livres, très petits, format carte de crédit, un petit peu plus grand. C'est quoi ces éditions-là? Qui c'est qui connaissait?
Moi, j'y vois pas de là.
C'est les éditions pneumatiques. Non. Non, personne ne connaît?
Non.
Donc on va laisser la parole à Marlène qui connaît, vu qu'elle me les a prêtés.
Bien sûr. Merci Claire de ton intervention.
Voilà, donc c'est sympa.
Non, mais
c'est sympa.
Non, mais raconte-nous, c'est des petits livres, c'est tout mignon, ça, c'est des choses que tu mets dans ton petit calendrier de l'Avent,
voilà,
dans la petite assiette de l'ami que tu invites à manger.
Mais
tu
imagines,
le 31 décembre, tu décides d'inviter des amis, j'aimerais bien que tu mettes ça dans l'assiette, tu vois, par exemple.
Non, mais par contre, pour le calendrier de l'Avent, c'est une excellente idée, voilà, tu vois, j'y avais pas pensé. Bon, après, il y a 8 jours.
Le calendrier de l'après, le pas de l'après et de l'après.
Tu l'ouvres que le, vu qu'il y a que 8 jours, que le 17 décembre.
Peut-être qu'il y en a d'autres.
Peut-être qu'il y en a d'autres. Mmh. Alors, il y a une très rigolote histoire de Nicole Cook qui s'appelle La réhabilitation. C'est sur la mort d'un hamster, d'un cochon d'Inde même. Voilà. Et il est mort et donc ils décident de l'enterrer. Et après, ils se disent, ouais, mais... il s'ennuyait, peut-être qu'il a fait exprès de mourir. En fait, à la fin, ils lui en veulent, quoi. Donc, j'ai trouvé ça excellent. Sinon,
et en fait, tu veux juste faire fuir Zélie et Maxime là,
non, non, pas du tout.
Tu leur avais vendu le truc, l'émission littéraire, blablabla, culture.
Mais c'est de la culture, c'est un peu absurde, mais c'est très drôle. Après, il y a Juanita, c'est sur un dictateur en Amérique du Sud. Voilà.
Mais c'est contemporain, ça. C'est en Argentine, c'est le nouveau président,
c'est Augustin Trapenard. C'est Augustin Trapenard.
Oui, c'est ça.
C'est Frank Pavlov. Ouais, c'est Pavlov.
Ah, oui,
qui n'est pas celui des Madeleines. Entre péon, entre bon sang, tu vas arriver une fois pour tout à fixer ce bon dieu de ventilateur. Donc c'est un péon, un paysan qui vient fixer un ventilateur qui en fait veut se venger de ce dictateur qui a tué sa femme et sa fille. Et donc il aiguise les lames, il y a tout un plan, les gardes l'ont laissé entrer. Et jusqu'au moment où il y a la fille du dictateur qui vient et là se pose un cas de conscience en se disant il faut que je sauve cette fille, je vais t'emmener avec moi, on va discuter de l'avenir de notre pays, tu vas penser comme nous pour libérer de la dictature et que notre pays devienne une démocratie. Et au final, ben, la petite s'assoit à la place du dictateur qui, lui, va ouvrir les... va mettre en marche le ventilateur et la petite fille va être tuée. Et ça finit en disant, bon, ben, au final, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Voilà, morale de l'histoire, le Géconde, c'est pas très gay. J'ai vachement préféré l'hamster qui mourait dans le... Mais voilà. En tout cas, j'ai lu 8 livres pendant que certains n'ont rien lu ou les préparent pendant cette émission, pendant que les autres parlent.
Mais alors, c'est des livres à poster.
On peut les poster aussi.
La couverture est doublée d'un petit carré pour mettre un timbre et une adresse. C'est rigolo, c'est un petit objet drôle.
Mais je me demande si Claire, elle ne les a pas achetés parce qu'on fait les vendredis de l'édition et on découvre des éditions justement d'Occitanie une fois par mois avec Occitanie Livre et Lecture. Et peut-être c'est une des éditions qui avait été présentée.
Dans le 49.
C'est
48 plus 1.
Pas du tout. Non, mais après, je sais pas. Mais voilà. Je me demandais si c'était ça, parce que comme elle découvre comme ça des petites maisons d'édition, je sais pas.
49, c'est quoi?
Aucune idée. La Mayenne, la Lozère. La Haute Lozère.
Ah, c'est peut-être la Mayenne.
Non, il y en a d'autres avant dans l'ordre.
C'est Cholet, non? 49, non?
Limoges.
Non,
c'est... Oui, on est dans Cholet là-bas.
Non, pas du tout. Bref, peu importe. On va dire que c'est Tarné. Ça sent bien le Tarn, cette maison d'édition.
C'est 81.
C'est 81. Voilà. Merci Pauline. Alors un super livre. On va remonter le niveau un peu de cette émission.
Je ne sais pas du tout comment revenir au conte après ça.
Étions-nous déjà dans les contes depuis le début de cette émission?
Je ne sais pas duquel parler parce que là j'ai.
Il a l'air superbe.
Alors oui, il est beau, mais c'est hyper, c'est très classique. Non, pas du tout.
Tu parles duquel?
Je parle des contes. Ah bah c'est marrant. Des contes des gardiens de la forêt. Alors.
Chez Seuil.
Oui, c'est chez Seuil. Alors, c'est pas moi, j'allais vous en parler. Je n'avais pas fait attention au titre et j'allais vous dire, c'est un peu les contes des gardiens de la forêt. Et donc, je suis sûre que je l'ai écrit quelque part dans ma critique. Ça me perturbe un peu.
Mais tu l'as écrit en titre.
Oui. Ben non, parce que pour le coup, là, ils se sont pas forcément foulés pour le titre parce que c'est ça. C'est cinq contes de cinq pays. Alors, cinq pays hyper variés. On a la Papouasie, Nouvelle-Guinée, le Brésil, le Canada. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Mongolie. C'est pas un continent particulier. Et alors, j'allais dire cinq enfants ou cinq groupes d'enfants. Pour cinq contes. Et ces enfants sont des gardiens de la forêt. C'est-à-dire que c'est des enfants. Alors, c'est pas du conte traditionnel du tout. C'est même plutôt moderne. C'est conte dans le format, dans la manière de raconter. On est dans le conte. Mais on est...
dans la forêt.
Avec des gardiens. Gardien de but, 1984, édition limitée.
Je mets mon veto.
Non, mais c'est très joli, tous ces petits haras qui sont dans les bois sur la couverture. Non,
on est pas y arriver.
C'est possible. Ouais.
Bref.
Haras, c'est un des seuls mots que je trouve au mot fléché, tu sais. Perroquet, trois lettres, bim, haras. Pouf, ça je sais.
C'est quatre. Il y a toujours un S. Non,
ça peut arriver. Mais là, je trouve pas qu'il y a S, je mets un point d'exclamation. Tu me dis, putain, c'est quoi? Merde. Pardon.
Vas-y, reprends le contrôle.
Je pourrais venir à mes enfants qui s'occupent des forêts. Je ne sais pas comment faire. Bref, bon, souvent, c'est... Alors là, nos cinq enfants, nos enfants sont tous issus de... ils ont grandi dans la nature, ils ont grandi dans les traditions de la nature. C'est des enfants du XXe siècle parce qu'en fait, ils font tous face dans leur vie hyper liée à la nature, à l'arrivée des hommes modernes, chercheurs d'or, chercheurs de pétrole, qui bousillent la planète. Voilà. Donc c'est hyper actuel comme thématique. C'est-à-dire, les caribous ont disparu parce qu'on a rasé la forêt pour faire passer un pipeline. Les ours disparaissent parce qu'on a rasé la forêt pour trouver de l'or. En fait, on rase toujours la forêt.
Et oui, mais on est riche.
Oui, on est très riche, c'est vrai. Posons-nous des questions. donc voilà, en fait, c'est comment, quand on est un enfant, qu'on tient à la nature, comment on fait face à des adultes avec un tout petit geste. Avec un tout petit geste, je plante une graine, moi, je prends soin des oiseaux, moi, j'essaye de m'occuper des caribous, de les nourrir, de les protéger avec une barrière, tout simplement. Et en fait, c'est des petits contes sur un sujet très moderne et c'est plein d'espoir, c'est joli. Et je pense que ça sensibilise bien les enfants à... il faut protéger nos forêts parce que finalement, quand on coupe des arbres, on coupe tout le cycle de la vie. Et c'est ça le thème principal de ces contes. Alors moi, j'ai eu juste un regret, c'est notamment dans le premier conte, il parle de casoar, il parle d'oiseaux de paradis, etc. Et en fait, j'ai pas trouvé le casoar dans les illustrations. Bon, j'ai fini par trouver l'oiseau de paradis, mais il parle de plein de plantes incroyables et on aimerait pouvoir les montrer. J'aime pas être à côté avec mon téléphone. Regarde, le casoar, il est là, donc oui. Voilà. C'est la seule petite chose qui m'a manqué, c'est un peu d'illustration de tout ce dont il parle. Bon, le caribou, on arrive à l'expliquer, mais le casoar, j'étais un peu plus en difficulté. Mais c'est de jolis contes avec de jolies leçons. Les cinq exactement sur la même terre, c'est protégeons nos forêts et ne laissons pas notre avidité détruire toute la planète. Parce que voilà, c'est pas juste, et c'est ça la leçon principale, c'est pas juste j'ai coupé des arbres, c'est plus que ça, j'ai coupé des arbres et j'ai cassé le trajet des caribous, j'ai coupé des arbres et les ours ne trouvent plus la nourriture qu'ils trouvaient dedans avant à cause de moi, enfin voilà.
Donc c'est joli, c'est très bien illustré, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie, et c'est du monde entier et de d'univers variés. Et voilà, j'ai bien aimé ce petit côté modernité qui ancre un peu sur aujourd'hui, une nouvelle morale un peu qui change.
Merci Pauline, oui ça donne envie, c'est un grand format. Hein,
alors c'est d'après le documentaire Gardien de la forêt d'Arte, alors que... alors ça je suis passée à côté, mais voilà.
Je l'ai peut-être vu, je me suis peut-être endormie. Généralement c'est le jeudi soir,
voilà,
j'adore.
Pour ceux qui l'auraient vu, c'est lié à ça.
Ok, merci. On arrive presque à la fin de cette émission. Hein. C'est fou,
incroyable
ça.
Comment ça passe vite.
Ouais. J'ai pas parlé de mon coup de cœur.
Non, mais on va déborder. Allez, on va déborder. Ouais. Garde la... Et toi aussi, allez, garde la parole, Pauline, après Marlène.
On a trop de livres à présenter, on... là.
Ah ben oui, je vois ça. Allez, Pauline, garde... Non, tu...
Ah ben, je le garde pour après. Tout le monde a eu un coup de cœur. Apparemment, tout le monde veut parler, là.
Allez, vas-y, Marlène, coup de cœur. Zélie, tu veux parler?
Non.
Non, d'accord. Alors Marlène, vas-y.
Le coup de cœur, l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Ouais.
Ah, il connaît, Maxime.
Ah, bah oui, mais il fallait bien le faire.
On adore les vilains.
Entre les illustrations qui sont magnifiques.
Monsieur Lacombe.
Comment ?
Monsieur Lacombe,
ah oui, voilà. Incroyable.
La maison d'édition aussi, que j'adore. Parce que voilà, ils ont un choix de texte et d'illustration magnifique dans cette maison d'édition, c'est sublime. D'ailleurs, les enfants avaient présenté deux titres à l'émission de radio qui sortent de cette
maison d'édition.
Mais je te rappelle juste que c'était juste le 1er janvier qu'on a fait la mission des enfants.
Voilà, c'est pour ça que je m'en rappelle plus. Non, mais c'est juste magnifique. Et donc là, on plonge c'est vraiment des petits contes très très courts d'une seule page. Il y a toujours une illustration et le conte sur la page d'en face. Ça repart vraiment sur tous les méchants de tous les contes.
Mais j'adore.
Non, mais c'est magnifique, vraiment. Et donc, on sait en fait pourquoi Capitaine Crochet, il est méchant. On sait pourquoi Dracula, il est méchant. On sait pourquoi la Reine de Cœur, elle est méchante ou vilaine. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est vraiment le coup de cœur de la sélection. Ouais, parce que les méchants, on les voit toujours grands. Ils ont toujours... Bon, on voit toujours le côté méchant. Et pourquoi manichéen, le côté sombre et tout ça, machin. Mais c'est vrai qu'on les a jamais imaginés petits.
Et oui, ça vient de là.
Est-ce qu'ils étaient déjà méchants petits ou pas? Est-ce qu'ils le sont devenus Shere Khan? Mais c'est magnifique. Enfin, franchement, entre les illustrations et le...
On a du
et
mal même à s'imaginer texte... qu'il ait pu être gentil.
Là, avec cette illustration-là, tu le vois tout à fait tout mignon, tout gentil. Non, il a dû lui arriver un truc horrible
c'est
pour lui
qui a allumé le feu. Excuse-moi. Non, Shere Khan, il est impardonnable.
Non, mais c'est vraiment... c'était le gros coup de cœur. Non, je ne pouvais pas ne pas en parler. Après, je pense qu'il faut vraiment le découvrir parce que, c'est... Mais c'est vraiment super, quoi. Il y a... et on repart vraiment... Et puis, en plus, c'est pas forcément... tous les méchants auxquels on penserait. Alors, il y a grand méchant, mais il y en a d'autres, en fait, où on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il est méchant, lui. La sorcière de la mer, on a zappé.
Jusque-là, tu nous as montré que des badass.
La sorcière du magicien d'Oz.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Mais c'est magnifique, enfin, moi, je... Qui c'est, lui?
Jack O'Lantern, ok.
Non, mais c'est que des méchants, c'est...
Oui, mais c'est que des méchants, des vilaines et des affreux.
Non, j'ai peur, c'est pour ça que je me tiens loin.
Oui, c'est sûr. Et après, il y a le petit... Il y a le petit son, enfin il y a le petit son mère à
c'est
la
qui
fin.
C'est qui le cyclope là que t'avais en premier?
Du coup c'est Polyphène.
J'ai l'impression qu'avec Maxime ils se connaissent super bien là.
Non.
J'ai senti.
Vas-y. Transition, parle un peu parce que nous.
Non. C'est juste que je connais bien Benjamin Lacombe puisque c'est un illustrateur que j'ai beaucoup fréquenté avec un de mes amis et surtout j'aime beaucoup ce petit album L'enfance des méchants. C'est la question des méchants, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Souvent les méchants c'est souvent les gens qui ont eu les meilleures intentions du monde et qui ont compris justement que l'enfer est pavé de bonnes intentions et je trouve ça trop bien justement de refaire des versions enfantines des enfants pour comprendre justement d'où vient le mal et que souvent c'est moins quelque chose d'inné que quelque chose qui nous est jeté dessus et sur lequel certains sont obligés de se conformer par le temps. Si je devais recommander une lecture par rapport à ça, je recommanderais le syndrome Magnéto de Benjamin Vrillot qui en parle, qui a analysé justement cette manière de comment un récit fait qu'une personne est méchante.
Et ben voilà.
Mais c'est noté. Commande Valérie. Allez, bim.
Des câbles.
Je vais le noter. Non mais c'est Max, il va le commander demain.
Tu l'avais pas celui-là ?
Non, et non. Oh. Et là je me dis, attends, parle, on est tous ébahis, les gens vont faire la queue pendant... demain là pour mais la
génial,
voir
je suis là.
Comment moi 3 jours
mes enfants ils voulaient pas me le rendre j'ai dit non mais alors là
enlève le code barre si tu veux le garder chéri.
Ok merci Marlène
mais j'avoue il est canon. Ouais,
c'est... merci Valérie
super c'est oui c'était pertinent mon commentaire
ah non je croyais que tu parlais de moi
oui aussi
pardon
mais toi tu es au-dessus de tous ces petits vilains.
Ok tiens on va parler d'un prince Franck Prévost alors c'est pas Franck Prévost le prince c'est ça ton coup de cœur
oui
Pauline voilà ouais. Merci alors qui est né à Bourg-en-Bresse et qui est mort à Valence il est mort assez jeune hein. Né en 68 mort en 2020 écrivain ouais, français de la littérature jeunesse. Je pensais que voilà, ça serait bien de le préciser.
Jusque-là,
c'est bien. Donc, ça s'appelle Odvin, le prince qui voulait vivre dans deux mondes.
Alors, pourquoi un coup de cœur ? Alors, un petit clin d'œil au stagiaire, parce que c'est un stagiaire qui a fait découvrir à l'auteur ce conte. Donc, les stagiaires sont très utiles, hein, croyez-moi.
La vie sans stagiaire serait tellement triste.
Eh bien, oui. Alors, conte que moi, je ne connaissais pas du tout. Et je vous avoue que j'ai cherché l'origine un peu... bon, alors, je suppose qu'il y a un côté russe ou quelque part par là, vu l'illustration, vu vu l'univers. Mais je n'ai pas vraiment cherché très longtemps, je vous avoue. Mais voilà, je n'ai pas trouvé l'origine. Mais ce conte, donc c'est un conte, je suppose, traditionnel. On a un roi très méchant avec sa femme, avec son peuple. Il est infect. Il fait 3 enfants qui vont avoir 3 handicaps qui reflètent ses mauvais côtés, c'est-à-dire qu'il n'entend pas son peuple. Donc un de ses enfants naît avec des oreilles d'or et est sourd. Il ne voit pas son peuple. Son deuxième enfant naît avec des yeux d'or. Il est aveugle. Et il ne communique pas avec son peuple. Et son troisième enfant naît avec une langue d'or. Il ne peut pas parler. Voilà, on pense aux 3 singes. Voilà, qui ne voient rien, qui n'entendent rien, qui ne parlent pas. Mais là, c'est plutôt des mauvais côtés que des qualités dans ce cas-là. Donc évidemment, ce peuple va se révolter et Odvin, notre l'enfant aveugle, va réussir à fuir. À dos de reine, il va fuir le palais avant que la catastrophe annoncée n'ait vraiment lieu et va traverser la taïga et va rencontrer des tas d'animaux qui vont lui ouvrir les yeux, donc les yeux qu'il n'a pas, sur la vie du peuple. Donc bon, le conte en lui-même est assez traditionnel. Ce que j'ai adoré par contre dans ce conte, j'ai découvert une histoire qui est assez intéressante parce que c'est une vraie leçon sur l'empathie, l'autre, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est bon, à la fois les illustrations qui font très traditionnelles. On est dans le dessin, mais on est aussi dans le décor. C'est sublime. Ça fait très, très Russie traditionnelle. Je ne sais pas si je me trompe d'univers, mais scandinave, voilà. Et donc, il y a des passages racontés sous la forme de récits et il y a des passages particuliers, les rencontres avec les animaux qui sont sous forme de bande dessinée. Et c'est très, très bien fait parce que la bande dessinée arrive vraiment au bon moment où l'animal échange avec Odvin et ça se prête totalement, et en fait on bascule du récit à la BD hyper facilement, et j'ai trouvé que le procédé était super original et mettait vachement de rythme dans la lecture. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un coup de cœur, parce que j'ai trouvé le procédé extrêmement original, en plus de l'histoire qui est belle. Bon, je l'ai lu à mes filles qui sont petites, je me suis dit elles vont décrocher très vite, et en plus elles vont peut-être être choquées parce que la fin est quand même très dure, hein. Ils se retrouvent il revient dans son palais à la fin et il voit sous 3 cloches, alors je ne sais plus quelle partie de son père, une statue de lui, la langue en or d'un de ses frères et les oreilles en or de son deuxième frère. Mais finalement, ça vient tellement naturellement que même des toutes petites filles, elles ont compris ce qui s'était passé, elles n'ont pas été choquées. C'est le talent du conte, je crois, c'est de pouvoir dire des choses très, très dures de manière... voilà, comme une morale, j'imagine. C'est ça qu'il y a derrière et ça fait que ça passe très bien.
Et c'est surtout superbe comme livre. Donc vraiment, je le conseille. Et pour l'originalité surtout de la forme du récit, d'alternance récit-BD, j'ai trouvé que c'était hyper surprenant. Pour les plus grands, pas pour vous des si petits peut-être, c'est à partir de 7-8 ans peut-être, et même jusqu'au milieu de collège, je pense que ça peut être très intéressant. Voilà.
Merci Pauline, on va rester sur ce livre. Voilà, cette émission est terminée. On vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes de fin d'année. C'est le moment de se retrouver, de fêter tous ensemble la fin d'une ère et la nouvelle année.
La fin d'une ère.
C'est comme ça.
2023-2024.
Pour l'année prochaine, pour la prochaine émission, il y aura une surprise, non, pour parler encore.
Ouais.
Voilà, on a une réunion qui va se tenir après. Alors, tu n'étais pas au courant, Valérie, mais tu le sais maintenant. Prépare-toi à rentrer tard ce soir chez toi.
Ah non.
Et si.
Ah non.
Et si, c'est comme ça. S'il te plaît. Car c'est un peu à cause de toi qu'on a cette réunion. Ah oui, voilà, tu sais de quoi je parle. Ouais. Allez, merci beaucoup Zélie et Maxime d'être restés en notre compagnie. Hein,
merci
j'espère
beaucoup.
Que ça vous a plu. Bon, attends, parfait. Alors, ouais, c'est ça. Si vous voulez aller les saluer, vous pouvez vous rendre à la livrerie et dire j'ai adoré vos chroniques, c'était génial. Hein, et vous accueilleront avec plaisir. Et comme dirait l'autre,
au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.